Avant ce soir-là, je croyais comprendre le pouvoir des médias. J'avais vu les spots d'Axelrod me propulser en tête des primaires, les inconnus qui me klaxonnaient ou me saluaient au volant de leur voiture, ou les enfants qui se précipitaient vers moi dans la rue en me disant d'un air grave « Je vous ai vu à la télé ». Mais cette fois, l'exposition médiatique était d'une toute autre ampleur. C'était une retransmission en direct, sans filtre, qui touchait des millions de personnes, dont les extraits diffusés en boucle en touchaient plusieurs millions d'autres grâce aux chaînes d'information et à Internet. Au moment de sortir de scène, je savais que mon discours s'était bien passé, et je n'ai pas été surpris outre mesure par la foule venue assister à nos divers meetings dès le lendemain. Mais, si gratifiante que soit l'attention que j'avais suscitée à Boston, je pensais que c'était un simple effet des circonstances. Je me disais que tous ces gens étaient des fanats de la politique, des gens qui suivaient ce genre d'événement minute par minute. Tout de suite après la convention, cependant, Michel, les filles et moi avons fait nos bagages et nous sommes partis pour une semaine de tournée en camping-car dans le sud de l'État afin de montrer aux électeurs que je restais concentré sur l'Illinois et que je n'avais pas pris la grosse tête. Nous étions sur l'autoroute, à quelques minutes de notre première étape, quand Jeremiah, mon directeur de campagne local, a reçu un appel de notre staff sur place. « D'accord, d'accord, je vais prévenir le chauffeur. »« Qu'est-ce qui se passe ?» lui ai-je demandé, déjà un peu fatigué par le manque de sommeil et l'enchaînement trépidant des événements. « On attendait une centaine de personnes, » a dit Jeremiah, « mais il y en aurait déjà 500. Ils nous demandent de ralentir pour leur laisser le temps de gérer l'afflux. » 20 minutes plus tard, à notre arrivée, nous nous sommes retrouvés au milieu d'une foule immense. On aurait dit que la ville tout entière s'était rassemblée dans le parc. Il y avait des parents avec leurs enfants juchés sur les épaules, des personnes âgées installées sur des chaises pliantes qui agitaient de petits drapeaux, des hommes en chemise écossaise et casquettes, sans doute venus là par simple curiosité, pour voir ce qui pouvait bien provoquer une telle effervescence, tandis que d'autres attendaient patiemment debout au milieu de la foule. Malia s'est penchée par la fenêtre, ignorant Sacha qui essayait de la pousser sur le côté pour mieux voir. « Qu'est-ce qu'ils font dans le parc, tous ces gens ?» a demandé Malia. « Ils sont venus voir papa, » a répondu Michel. « Pourquoi ?» Je me suis tourné vers Gibbs, qui a haussé les épaules en disant « Il va te falloir un plus gros bateau. » À partir de là, chaque fois que nous nous arrêtions quelque part, nous étions accueillis par des rassemblements 4 ou 5 fois plus importants que jamais auparavant. Et nous avions beau nous dire que cette curiosité finirait par retomber et le ballon par se dégonfler, nous avions beau faire attention à ne pas nous complaire dans l'autosatisfaction, l'élection elle-même est presque passée au second plan. Au mois d'août, les Républicains, incapables de trouver un candidat local prêt à se lancer dans la bataille, même si l'ancien entraîneur de l'équipe de foot des Chicago Bears, Mike Ditka, a publiquement affirmé qu'il y songeait, ont recruté le trublion conservateur Alan Keyes, ce qui était pour le moins déconcertant. « Tu vois, » a dit Gibbs avec un petit sourire, « eux aussi, ils ont leur candidat noir. » En dehors du fait que Keyes était résident du Maryland, ses prises de position moralisatrices et sans concession sur l'avortement et l'homosexualité n'étaient pas très bien reçues parmi les citoyens de l'Illinois. « Jésus-Christ ne voterait pas pour Barack Obama, » assénait-il, écorchant délibérément la prononciation de mon nom à chaque fois. Je l'ai battu avec une marge de plus de 40 points, le plus grand écart jamais observé lors d'une élection sénatoriale dans toute l'histoire de l'État. Pourtant, le soir de l'élection, notre humeur était mitigée, non seulement parce que notre victoire ne faisait aucun doute depuis un certain temps, mais aussi à cause des résultats au niveau national. Kerry avait perdu contre Bush. Les Républicains gardaient le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants. Même le chef de file de l'opposition démocrate au Sénat, Tom Daschle, du Dakota du Sud, avait été mis en échec. Karl Rove, l'éminence grise de George Bush, plastronnait en évoquant la majorité républicaine qu'il rêvait d'installer de manière permanente à la tête du pays. De notre côté, Michel et moi étions épuisés. Mon staff avait calculé que j'avais pris 7 jours de repos en tout et pour tout au cours des 18 derniers mois. Nous avons mis à profit les 6 semaines qui nous séparaient de mon investiture au Sénat des États-Unis pour nous occuper de divers problèmes domestiques que nous avions largement négligés. Je suis allé à Washington rencontrer mes futurs collègues, faire passer des entretiens pour constituer mon équipe et trouver l'appartement le plus abordable possible. Michel avait décidé qu'elle resterait à Chicago avec les enfants, où elle pouvait compter sur le soutien d'un vaste cercle familial et amical, sans parler de son travail auquel elle était très attachée. Même si la perspective d'être loin d'elle 3 jours par semaine pendant une bonne partie de l'année m'attristait, je ne pouvais que me rendre à ses arguments. Pour le reste, nous ne nous sommes pas éternisés sur ce qui venait de nous arriver. Nous avons passé Noël à Hawaï avec Maya et toutes. Nous avons chanté ensemble, construit des châteaux de sable et regardé les filles ouvrir leurs cadeaux. J'ai jeté une fleur de frangipanier dans l'océan, à l'endroit où ma sœur et moi avions dispersé les cendres de ma mère. Et j'en ai déposé une autre au cimetière commémoratif national du Pacifique, où était enterré mon grand-père. Après le nouvel an, toute la famille s'est envolée pour Washington. La veille de mon investiture, Michel se préparait dans la chambre de notre suite à l'hôtel pour le dîner d'accueil organisé en l'honneur des nouveaux membres du Sénat, quand j'ai reçu un coup de téléphone de mon éditrice. Mon discours à la convention de Boston avait donné un nouveau souffle à mon livre, épuisé depuis plusieurs années, qui avait été réimprimé et se retrouvait à présent en tête des meilleures ventes. Elle m'appelait pour me féliciter et m'annonçait qu'elle était prête à signer un contrat pour un nouveau livre, assorti cette fois d'une avance astronomique. Je l'ai remercié et j'ai raccroché au moment où Michel sortait de la chambre, vêtu d'une robe de gala étincelante. « T'es trop jolie, maman !» a lancé Sacha. Michel a fait une petite pirouette sur elle-même. « Bon, allez les filles, soyez bien sages !» leur ai-je dit avant d'embrasser la mère de Michel, qui les gardait pour la soirée. Nous traversions le couloir pour rejoindre l'ascenseur, quand Michel s'est brusquement figé. « Tu as oublié quelque chose ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé en secouant la tête d'un air incrédule. « Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi. La campagne, le livre, tout ça. » J'ai acquiescé et je l'ai embrassé sur le front. « Les haricots magiques, chérie. Les haricots magiques. » En général, le plus gros défi pour un sénateur impétrant à Washington, c'est de faire en sorte que son travail ne passe pas inaperçu. Je me suis très vite retrouvé confronté au problème inverse. Au regard de mon statut réel en tant que nouveau sénateur, l'attention dont je faisais l'objet avait pris des proportions presque comiques. Les journalistes me demandaient régulièrement quels étaient mes projets. La plupart du temps, ils voulaient savoir si je comptais me présenter à la prochaine élection présidentielle. Le jour où j'avais prêté serment, l'un d'eux m'avait demandé « Comment voyez-vous votre rôle dans l'histoire ?» J'avais éclaté de rire. « Je venais à peine de débarquer à Washington », avais-je expliqué. J'occupais le 99e rang au Sénat en termes d'ancienneté, je n'avais pas encore eu l'occasion de participer au moindre vote et je ne savais pas où se trouvaient les toilettes dans le Capitole. Ce n'était pas de la fausse modestie. Le seul fait de présenter ma candidature au Sénat avait déjà été une sacrée gageure à mes yeux. J'étais heureux d'être là et j'avais hâte de me mettre au travail. Afin de faire contrepoids aux attentes démesurées, mon équipe et moi-même avions décidé de nous inspirer de l'exemple de Hillary Clinton, dont l'entrée au Sénat 4 ans auparavant avait fait grand bruit et qui s'était forgé par la suite une solide réputation grâce à sa rigueur et à la qualité de son travail, ainsi qu'à l'attention qu'elle témoignait à ses électeurs. Être une bête de travail, pas une bête de cirque, tel était mon objectif. Personne n'était plus indiqué que mon nouveau directeur de cabinet, Pete Rouse, pour mettre en œuvre une telle stratégie. La petite soixantaine grisonnante, bâtie comme un panda, Pete travaillait au Capitole depuis près de 30 ans. Son expérience auprès de Tom Daschle, notamment ces dernières années, ainsi que son entregent à Washington, l'avait fait affectueusement surnommer le 101e sénateur. Tout le contraire du stéréotype des conseillers politiques à Washington, Pete était allergique au feu de la rampe et, sous des abords de bout en train un peu bourrus, il était presque timide, ce qui aidait à comprendre sa situation de célibataire endurci et l'affection quasi exclusive qu'il réservait à ses chats. Il m'avait fallu déployer des efforts considérables pour convaincre Pete d'accepter de prendre la direction de mon cabinet débutant. Ce qui lui posait problème, m'avait-il affirmé, ce n'était pas tant le net recul que représentait ce poste pour lui-même en termes de prestige, que le fait qu'il aurait moins de temps pour aider tous les jeunes employés de son staff, au chômage après la défaite de Daschle, à retrouver du travail. C'était cette honnêteté et cette droiture, autant que son expertise, qui faisait de Pete un cadeau du ciel. Et grâce à sa réputation, j'ai pu recruter une équipe de tout premier ordre au sein de mon cabinet. Outre Robert Gibbs, au poste de directeur de la communication, nous avons enrôlé Chris Lou, un des conseillers les plus expérimentés au Capitole, comme directeur des affaires législatives. Mark Lippert, un jeune et dynamique réserviste de la marine, comme attaché aux affaires étrangères, et Alyssa Mastromonaco, l'une des figures de proue de la campagne Kerry, dont le visage poupon dissimulait un talent incomparable pour la résolution des problèmes en tout genre et l'organisation événementielle, comme directrice de l'agenda. Enfin, nous avons recruté un jeune homme de 23 ans, aussi avisé que séduisant, John Favreau. Favs, ainsi que tout le monde a vite pris l'habitude de l'appeler, avait lui aussi travaillé sur la campagne de John Kerry, et c'était le choix numéro un de Gibbs, comme de Pitt, pour le poste de rédacteur des discours. « Je ne l'ai pas déjà vu quelque part, lui ?» ai-je demandé à Gibbs après notre entretien. « Si, c'est le gamin qui est venu te prévenir que Kerry allait te piquer l'une de tes répliques à la convention. » Je l'ai quand même engagé. Sous la supervision de Pitt, l'équipe a installé ses quartiers à Washington, à Chicago, ainsi que dans plusieurs antennes régionales. Afin de mettre l'accent sur la priorité que nous donnions à nos électeurs, Alissa a élaboré un ambitieux programme de meeting dans diverses mairies de l'Illinois, 39 rien qu'au cours de la première année. Nous nous sommes fixés pour règles strictes d'éviter la presse nationale et les matinales du dimanche, afin de concentrer nos efforts sur la presse et les chaînes de télévision locales. Autre élément crucial de notre stratégie, Pitt a instauré un système très perfectionné pour répondre aux lettres et aux requêtes que nous envoyaient les électeurs, passant des heures avec de jeunes membres de l'équipe et des stagiaires employés au service du courrier, corrigeant leurs réponses avec la plus extrême méticulosité et s'assurant qu'ils connaissaient toutes les agences fédérales vers lesquelles renvoyaient les gens en cas de perte d'un chèque d'allocation, d'une interruption de versement de la pension aux anciens combattants ou pour toute question relative aux prêts octroyés par l'agence fédérale en charge du soutien aux petites et moyennes entreprises. « Les gens ne seront peut-être pas toujours d'accord avec la façon dont tu votes au Sénat, » me disait Pitt, « mais en tout cas, ils ne pourront jamais t'accuser de ne pas répondre à ton courrier. » Les affaires courantes désormais en bonne main, je pouvais consacrer la majeure partie de mon temps à plancher sur les questions de fond et à faire connaissance avec mes collègues au Sénat. La tâche m'a été facilitée par la générosité du premier représentant de l'Illinois au Sénat, Dick Durbin, ami et disciple de Paul Simon et débatteur hors pair au sein de l'hémicycle. Dans un univers qui faisait la part belle aux égos surdimensionnés et où les sénateurs ne voyaient pas d'un œil particulièrement bienveillant un jeune collègue récolter plus de presse qu'eux, Dick était toujours prêt à me tendre la main. Il m'a présenté à tout le monde. Il s'est battu pour nous associer à la réussite de certains projets de loi portés par son équipe et il s'est montré d'une patience et d'une bonne humeur inébranlables quand, lors des petits déjeuners du jeudi avec les électeurs que nous organisions conjointement, nos visiteurs passaient une bonne partie de la matinée à me demander des photos et des autographes. Je pourrais en dire tout autant du nouveau chef de file du groupe démocrate au Sénat, Harry Reid. Le chemin qu'il avait mené au Capitole était tout aussi improbable que le mien. Né dans une famille pauvre de la petite bourgade de Searchlight, dans le Nevada, d'un père mineur et d'une mère blanchisseuse, il avait grandi dans une bicoque sans eau courante ni téléphone. Il avait tout de même réussi, à force de volonté, à faire des études supérieures, puis à entrer à la fac de droit de l'université George Washington, travaillant entre les cours sous l'uniforme de la police fédérale du Capitole pour payer ses frais de scolarité. Et il était le premier à reconnaître qu'il avait toujours gardé un goût amer de ses épreuves. « Tu sais, Marac, je faisais de la boxe quand j'étais gosse », m'a-t-il dit de sa voix tout en murmure la première fois que nous nous sommes rencontrés. « Et bon sang, on ne peut pas dire que j'étais un grand athlète. Je n'étais pas grand et fort, mais j'avais deux qualités. Je savais encaisser les coups et je ne m'avouais jamais vaincu. » Ce sentiment d'avoir réussi en dépit de l'adversité explique sans doute que Harry et moi, malgré notre différence d'âge et d'expérience, soyons devenus si proches. Il n'était pas du genre à montrer ses émotions, et il était même enclin à passer outre les amabilités de rigueur dans la conversation, surtout au téléphone, ce qui pouvait être assez déconcertant. Soudain, vous vous rendiez compte qu'il avait raccroché alors que vous étiez au beau milieu d'une phrase. Mais, à l'instar d'Emile Jones au Sénat de l'Illinois, Harry s'est démené pour m'ouvrir les portes des commissions d'examen de projets de loi et pour que je sois au courant de toutes les affaires qui se tramaient dans les couloirs du Sénat, sans se soucier le moins du monde de mon rang subalterne. Du reste, ce genre de solidarité entre sénateurs semblait constituer la norme. Les vieux briscards du Sénat, démocrates ou républicains, Ted Kennedy et Orrin Hatch, John Warner et Robert Byrd, Dan Inouye et Ted Stevens, entretenaient des liens d'amitié qui dépassaient les clivages politiques et se comportaient entre eux avec une intimité sans façon qui me paraissait typique de la génération grandiose. Les sénateurs plus jeunes se fréquentaient moins et manifestaient une plus grande agressivité idéologique, directement issue de la nouvelle radicalisation du discours à la Chambre des représentants après l'époque Gingrich. Mais même avec mes collègues les plus conservateurs, je trouvais souvent des terrains d'entente. Tom Coburn, par exemple, sénateur de l'Oklahoma, chrétien fervent et contempteur infatigable de l'interventionnisme fédéral, allait devenir l'un de mes amis les plus sincères et attentionnés, nos deux équipes mettant leurs efforts en commun pour défendre des mesures visant à améliorer la transparence et réduire les dépenses liées à la passation des marchés publics. À bien des égards, ma première année au Sénat me rappelait mes débuts sur les bancs de la législature de l'Illinois, même si les enjeux étaient plus importants cette fois, la tension médiatique plus forte et les lobbyistes beaucoup plus doués pour déguiser les intérêts de leurs clients sous les oripeaux des grands principes. Contrairement à ce qui prévalait au niveau local, où bon nombre de sénateurs se contentaient de faire profil bas et n'avaient souvent pas la moindre idée de ce qui se passait autour d'eux, mes nouveaux collègues étaient très bien informés et n'avaient pas peur d'exprimer leurs opinions, ce qui se traduisait par des débats interminables pendant les réunions de commission, lesquels m'inspiraient rétrospectivement une immense compassion pour tous ceux qui avaient dû subir mes propres envolées lyriques à la fac de droit et à Springfield. En tant que membre de l'opposition, mes collègues démocrates et moi-même n'avions guère voix au chapitre sur l'examen des projets de loi en commission et la décision de les porter ou non au vote de l'Assemblée sénatoriale. Nous regardions les Républicains faire passer des budgets qui réduisaient les fonds alloués à l'enseignement ou s'abordaient les mesures de protection de l'environnement, avec un sentiment d'impuissance auquel nos grandes déclarations devant une chambre aux trois quarts vide et sous l'œil indifférent des caméras de la chaîne parlementaire C-SPAN ne pouvaient pas grand-chose. Nous passions notre temps à nous désoler de voir voter des résolutions dont l'objectif relevait moins d'un grand dessein politique que d'une volonté de faire pièce aux démocrates et de fourbir des armes en vue des prochaines campagnes. Comme au Sénat de l'Illinois, j'ai fait mon possible pour peser à la marge sur les décisions politiques, en soutenant des projets modestes et non partisans. Le financement de mesures de prévention contre les pandémies, par exemple, ou du reversement des pensions militaires à une classe de vétérans de l'Illinois. Si frustrant que puisse être le Sénat par certains aspects, le rythme plus lent auquel j'étais contraint ne me dérangeait pas. Étant l'un de ses plus jeunes élus et jouissant d'un taux de popularité de 70% dans l'Illinois, je pouvais me permettre d'être patient. À un moment, j'ai songé à l'éventualité de me présenter au poste de gouverneur ou même, oui, à la présidentielle, convaincu qu'un rôle d'envergure au sein de l'exécutif me donnerait les moyens de fixer le cap politique de mon choix. Mais pour l'heure, à 43 ans, et alors que je faisais tout juste mes premiers pas sur la scène nationale, je me disais que j'avais l'avenir devant moi. J'étais d'humeur d'autant plus radieuse que la situation s'était nettement améliorée sur le front domestique. À condition que les caprices de la météo ne s'en mêlent pas, il ne me fallait pas plus de temps pour rentrer de Washington à Chicago que je n'en mettais auparavant pour me rendre à Springfield. Et une fois à la maison, je n'étais pas aussi occupé ou distrait que lorsque j'étais en campagne ou que je devais jongler entre trois activités professionnelles, ce qui me laissait tout le temps d'emmener Sacha à son cours de danse le samedi ou de lire un chapitre de Harry Potter à Malia le soir avant de l'aborder. L'amélioration de notre situation financière nous avait aussi libéré d'un poids. Nous avons acheté une nouvelle maison, une magnifique demeure georgienne en face d'une synagogue dans le quartier de Kenwood. Pour un tarif raisonnable, un jeune ami de la famille et aspirant chef, Sam Cass, a accepté de faire les courses pour nous et de nous préparer de bons petits plats équilibrés qui pouvaient nous durer la semaine. Mike Signator, ancien cadre de la compagnie d'électricité Commonwealth Edison, désormais à la retraite, qui avait rejoint la campagne en tant que bénévole, avait choisi de rester à mes côtés en qualité de chauffeur à mi-temps, devenant pratiquement un membre de notre famille. Surtout, grâce à la marge de sécurité financière dont nous disposions à présent, ma belle-mère, Marianne, a accepté de réduire ses heures de travail pour venir nous prêter main forte avec les filles. Pleine de sagesse et d'humour, et encore assez dynamique pour courir après deux fillettes de 4 et 7 ans, elle a rendu la vie plus facile pour tout le monde. Il se trouve par ailleurs qu'elle avait une certaine affection pour son gendre, et elle prenait systématiquement ma défense quand j'étais en retard, désordonné, ou que je n'étais pas à la hauteur d'une manière ou d'une autre. Ces soutiens nous ont permis, à Michel et à moi, de retrouver un peu du temps ensemble qui nous avait manqué pendant si longtemps. Nous riions plus souvent et nous nous rappelions de nouveau que nous étions chacun le meilleur ami de l'autre. Mais pour le reste, ce qui nous a surpris tous les deux, c'est de constater que nous avions très peu changé au fond, en dépit de cette nouvelle situation. Nous étions toujours aussi casaniers, évitant autant que possible les fêtes clinquantes et les dîners mondains, parce que nous ne voulions pas sacrifier nos soirées avec les filles, parce qu'il nous semblait ridicule de nous mettre sur notre 31 en permanence, et parce que Michel, qui a toujours été une lève-tôt, piquait du nez à partir de 10 heures du soir. Nous passions nos week-ends comme nous l'avions toujours fait. J'allais jouer au basket où j'emmenais Malia et Sacha à la piscine, tandis que Michel faisait du shopping au grand magasin Target et organisait des sorties entre amis pour les filles. Nous dînions ou nous retrouvions autour d'un barbecue l'après-midi en famille ou avec quelques amis proches, notamment Valérie, Marty, Anita, Eric et Cheryl Whittaker, tous deux médecins, leurs enfants avaient le même âge que les nôtres, ainsi que Kay et Wellington Wilson, appelés affectueusement Mama Kay et Papa Wellington, un couple plus âgé. Lui était à la retraite, ancien directeur d'une université publique, et elle était responsable de projet dans une fondation locale, et un cordon bleu hors pair. Je les avais rencontrés à l'époque de mon travail dans les cercles associatifs, et ils se voyaient un peu comme mes parents d'adoption à Chicago. Cela ne signifie pas pour autant que Michel et moi n'avons pas été obligés de nous adapter à certains changements. Les gens nous reconnaissaient désormais dans la rue, et même s'ils étaient en général bienveillants, nous étions assez désarçonnés par cette perte soudaine de notre anonymat. Un soir, peu après l'élection, nous sommes allés voir le film Ray avec Jamie Foxx, et avons été sidérés quand les autres spectateurs se sont mis à nous applaudir lorsque nous sommes entrés dans la salle. Parfois, quand nous sortions dîner, nous remarquions que nos voisins cherchaient à entamer de longues conversations avec nous, ou devenaient au contraire subitement silencieux pour essayer, sans grande discrétion, d'écouter ce que nous nous disions. Les filles aussi ont bien vu que quelque chose avait changé. Un jour, pendant mon premier été en tant que sénateur, j'ai décidé d'emmener Malia et Sacha au zoo de Lincoln Park. Mike Signator m'avait prévenu que la foule, un dimanche après-midi ensoleillé, risquait d'être un peu difficile à gérer, mais j'ai insisté, persuadé que des lunettes de soleil et une casquette de baseball suffiraient à me faire passer inaperçu. Et pendant une demi-heure environ, tout s'est déroulé comme prévu. Nous avons observé les lions derrière leurs vitres qui arpentaient la maison des félins et avons fait des grimaces aux grands singes, sans être dérangés une seule fois. Et puis soudain, alors que nous nous étions arrêtés pour repérer sur notre carte où se trouvait le bassin des otaries, nous avons entendu un type crier.
« Obama ! Hé, regardez, c'est Obama ! Hé, Obama, je peux avoir une photo avec vous ?»
Quelques instants plus tard, nous étions cernés par des familles entières, des gens qui jouaient des coudes pour obtenir une poignée de main ou un autographe, des parents qui faisaient prendre la pose à leurs enfants à côté de moi pour une photo. J'ai fait signe à Mike pour qu'il emmène les filles voir les otaries sans moi. Pendant un quart d'heure, je me suis prêté à la curiosité de mes électeurs, dont les témoignages de sympathie étaient au demeurant très agréables, en me rappelant que c'était aussi pour cela que j'avais signé. Mais j'étais un peu navré en songeant à mes filles, qui devaient se demander ce qui était arrivé à leur papa. J'ai fini par les rejoindre, et Mike a suggéré que nous quittions le zoo pour aller manger une glace ailleurs, dans un endroit plus calme. Sur le trajet, il a eu l'indulgence de m'épargner ses commentaires. Les filles, elles, se sont montrées moins charitables.
« Tu devrais prendre un alias », a déclaré Malia sur la banquette arrière. « C'est quoi un alias ?» a demandé Sacha. « C'est un faux nom que tu utilises quand tu veux pas que les gens sachent qui tu es », a expliqué Malia. « Comme Johnny McJohnJohn, par exemple. »
Sacha s'est mise à glousser.
« Oh oui, papa, tu devrais t'appeler Johnny McJohnJohn. Et il faudrait aussi que tu transformes ta voix », a renchéri Malia. « Les gens la reconnaissent, il faut que tu parles avec une voix plus aiguë et plus rapide. »«
Papa parle tellement lentement », a acquiescé Sacha.
« Allez, vas-y, papa !» a dit Malia. « Essaie !»
Et elle s'est mise à chantonner à toute vitesse d'une voix de fausset.
« Salut, je m'appelle Johnny McJohnJohn !»
Mike, incapable de se retenir, a éclaté de rire. Un peu plus tard, de retour à la maison, Malia a fièrement exposé son plan à Michel, qui lui a tapoté la tête.
« C'est une idée géniale, ma chérie » a-t-elle dit. « Mais le seul moyen pour ton père de passer inaperçu, ce serait de se faire recoller les oreilles. »